N'empêche, la musique, tu vois, elle est pas hyper. Elle est pas très variée, on va dire. C'est souvent le même thème, mais elle est impressionnante. Elle est prenante.
Mais grave. J'avais le... Là, je suis retournée le voir hier en Dolby. J'avais le siège qui vibrait. C'était vraiment impressionnant.
J'imagine.
Et c'est peut-être ça notre intro, en fait.
Ah, mais je pensais que c'était ça notre intro.
Ah, bah, très bien. Bienvenue sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé, café aux épices ou pumpkin spice latte. Dans tous les cas, mettez de l'épice dans votre boisson aujourd'hui. Parce que c'est parti pour une session blabla autour des séries et cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Et aujourd'hui, on va parler du phénomène, parce que s'il y a vraiment un mot qui le caractérise, je pense que c'est ça, qui fait autant parler en positif qu'en négatif, de ce que j'ai compris, Dune.
Je suis archi prête pour cet épisode.
Moi aussi. Bon, on vous avoue qu'on a dû quand même pas mal se préparer parce que, en tout cas, moi, en priorité, quand je suis sortie du film, je n'ai pas tout compris. Et donc là, je me suis dit, ok, comment faire un épisode pour toutes les 5 minutes dire, bon alors j'ai pas compris pourquoi ça. Donc voilà, on a dû faire quand même quelques petites recherches.
Ouais, bah moi aussi je suis sortie en mode, mais pas forcément en mode j'ai pas tout compris. Enfin si, dans les faits, si, j'avais pas tout compris, mais plutôt en mode... Ah, mais j'ai tellement l'impression d'avoir découvert un truc sur lequel j'ai envie d'apprendre tellement plus de choses que, spoiler alert, j'ai vu le film 3 fois et j'ai déjà lu le bouquin, voilà, en 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, 3 semaines. Voilà.
Voilà, tout est dit.
Et j'ai consommé des heures et des heures de podcasts et des heures de vidéos et voilà, je vis Dune depuis 3 semaines.
Bon, moi, j'en suis pas à ce point-là, hein, je vous rassure. J'ai beaucoup aimé, j'en ai pris vraiment plein les yeux. Je ne le reverrai pas tout de suite parce que je veux une partie 2. Et que, voilà, voir juste la partie 1, t'as l'impression de voir la moitié d'un film. Et du coup, j'aurais du mal à le revoir lui en boucle tout seul. Mais je reconnais que j'ai beaucoup aimé, que c'est un grand film. Et j'étais très excitée à l'idée de faire cet épisode.
Alors, comme on a énormément de choses à dire sur ce film, enfin, on va séparer ce sujet en 2 épisodes, avec un premier épisode qui sera entièrement sans spoiler, ou en tout cas, qu'on conseille à écouter avant de voir le film, sauf si vous voulez aller voir le film sans rien écouter, mais si c'est le cas, je suppose que vous n'êtes pas en train d'écouter en ce moment. avec du coup une partie où on préviendra, il y a des légers spoilers sur l'intrigue, mais on considère que c'est des choses qui ne vont pas vous gâcher le film, mais qui vont plutôt vous aider à bien en profiter. Et un 2e épisode où là, on parlera plus en détail du film en lui-même et de choses full spoiler.
Voilà. Sachant que cette première partie là que vous êtes du coup potentiellement en train d'écouter là maintenant, on la conseille également si vous avez vu le film et que comme moi vous êtes sorti en vous disant « Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai 50 000 questions, je n'ai pas tout compris, c'est qui ce grand bonhomme qui vole obèse ?» Voilà.
Oui, je pense que vous aurez besoin, enfin pas besoin, mais on reviendra pas sur certaines choses dans le 2e épisode sur ce qu'on expliquera dans cet épisode-là, donc les deux vont ensemble si vous avez vu le film, évidemment.
Bon, et donc on va commencer par une petite présentation du film, on va dire une petite remise en contexte, hein, parce que le phénomène Dune, c'est quand même, comme je l'ai dit, un phénomène. Moi, personnellement, je ne connaissais pas, honte à moi, mais voilà, c'est quelque chose que, en tout cas, nos parents connaissaient bien, puisque c'est pas le premier film. Donc en tout cas, celui dont on va parler, c'est le film américain de science-fiction de 2h36, n'est pas rien, réalisé par Denis Villeneuve, qui est actuellement en salle. On y trouve, du coup, dans ce film, un casting. Je voulais absolument commencer par le casting, puisque c'est un casting avec énormément de têtes d'affiches. On a quelques petits noms, et puis à chaque fois, je vais donner un ou deux films pour lesquels on le connaît. On a Timothée Chalamet, qui a fait Call Me By Your Name, et aussi Little Woman, dont on a parlé dans un autre épisode. On a Rebecca Ferguson, très connue pour Mission Impossible. Oscar Isaac, Star Wars, quand même.
Yes.
Stellan Skarsgård, Avenger, Mamma Mia, Pirates des Caraïbes. En fait, je me suis rendu compte qu'il était partout, que à chaque fois, je le reconnaissais pas.
Ah ouais, c'est ça.
Il est impressionnant. Josh Brolin, on a quand même Thanos dans le film. Faut voir où est-ce qu'il est, même s'il a pas la même tête.
Ouais, moi j'avais pas du tout fait le lien du coup.
Javier Bardem, moi c'est lui que j'ai pas fait, j'ai pas reconnu. Alors que pourtant je l'adore. The Mother, Skyfall, Vicky Cristina Barcelona. Enfin, voilà, c'est un acteur quand même assez présent. Jason Momoa, Aquaman. Ouais, on a tous les super-héros. Game of Thrones aussi, c'est vrai. Ouais, mais il apparaît pas beaucoup dans Game of Thrones.
C'est vrai.
Je l'aimais beaucoup. J'ai eu le temps de le voir, c'est déjà ça. Bon, en tout cas, vous avez compris, c'est un énorme casting qui peut facilement faire rêver, mais qui peut aussi faire peur, parce qu'on connaît tous cet effet où il y a tellement de stars à l'affiche qu'au final, le film se repose dessus et qu'on est déçu. Voilà, spoiler de la suite, c'est pas le cas. On n'est pas déçu, ils sont tous fantastiques, sensationnels. La preuve, on ne reconnaît même pas leur tête, c'est pour ça.
c'est des fois le risque avec des grandes stars, c'est qu'on ne voit que l'acteur et on ne voit pas le personnage. Et je trouve que tous, ils se sont vraiment fondus dans leur personnage. Bon, au point certain de ne pas du tout être reconnaissable. Hein, c'était Skarsgård, mais bon, et Javier Bardem, mais bon, c'est des habitués du genre. Mais je trouve même Oscar Isaac, à aucun moment, j'ai pensé à Star Wars en voyant son personnage. Enfin, ça n'a rien
pas
à
une
voir,
seule fois.
Ouais.
Non, c'est impressionnant. D'ailleurs, je crois que Thibaut, il avait pas reconnu que c'était lui. C'est quand je lui ai dit à la fin du film.
C'est la barbe.
C'est la barbe.
Cette magnifique barbe.
Non, mais même au niveau du regard, de la voix, de l'interprétation, il y a quand même. Bah, c'est un bon acteur, quoi. C'est là qu'on voit que c'est un bon acteur.
Ouais.
Donc, le film, il est sorti le 15 septembre 2021 en Europe et il sortira uniquement le 22 octobre outre-Atlantique. Je trouve ça incroyable quand même qu'on ait cette. Cette avant-première, ouais, c'est même une avant-première, c'est un écart d'un mois.
Ouais, il est sorti dans plein de salles, notamment en Europe, ouais, et que ce soit aux États-Unis ou en Chine, et ils doivent attendre le 22 octobre.
Alors, en plus, aux États-Unis, il aura une sortie en parallèle sur HBO.
Alors, je pense du coup que ça peut-être explique ce décalage. Puisqu'on sait très bien que dès qu'il est disponible sur HBO, des copies piratées circulent sur l'internet. Et donc du coup, je pense que peut-être que c'était aussi une stratégie pour Warner de sauvegarder une vraie exploitation en salle dans les pays où il va sortir que en salle, pour éviter qu'il soit piraté. Peut-être, je sais pas.
Peut-être. Ah peut-être, non, c'est une bonne théorie. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la première adaptation du roman, puisque de base, Dune, c'est un roman de science-fiction de Frank Herbert, qui est paru en 1965. Donc, on a eu une première adaptation avec le film Dune, c'est souvent celui-là, dont je vous ai dit que vos parents ont sûrement vu, de 1984, de David Lynch, avec Sting. Moi, c'est le seul truc dont ma mère a retenu, je crois. Ouais. Enfin, c'est le truc qu'elle m'a dit, en tout cas.
Avec autant Sting. David Lynch est quand même un cinéaste hyper reconnu et en général apprécié par les cinéphiles. Autant Dune, c'est pas souvent celui qui est mis en haut de l'affiche, en haut du top de David Lynch, on peut le dire.
C'est vrai. Il n'a pas des critiques exceptionnelles, le pauvre. Alors après, honnêtement, moi, David Lynch, je crois que j'ai dû voir Elephant Man il y a très longtemps. C'est un film culte, mais c'est pas le genre de film que je vais regarder souvent, quoi. Il a quand même un style particulier, on va dire.
Ouais, non mais là, ouais. Et là j'ai vu que des extraits, l'esthétique de ce première adaptation de Dune est spéciale.
Ouais. J'ai vu quand ils se battent avec le bouclier. Voilà.
Après, voilà, c'est les effets spéciaux des années 80.
Oui, c'est sûr. Mais je préfère les effets spéciaux de Star Wars, tu vois.
C'est clair, dans la même période, mais
ça n'a rien à voir. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, on a eu une première adaptation en 84. On a eu ensuite une mini-série de 3 épisodes en 2000 de John Harrison. Et puis, on a eu une adaptation qui n'a pas vu le jour d'Alejandro Jodorowsky. Pardon, j'ai réussi à le prononcer, je suis fière de moi. Et qui, lui, a essayé de sortir dans les années 70. Et c'est un projet que vous pouvez découvrir dans le documentaire mythique Jodorowsky Dune. Voilà. Ouais. Tu l'as vu, toi, ce documentaire ?
Ouais, je l'ai. Enfin, je l'ai pas vu en entier, pareil. J'ai vu des extraits, mais parce que j'avais pas envie de me spoiler, en fait, trop. Mais j'ai vu des morceaux, j'ai vu des vidéos qui parlent de ce documentaire. Et en fait, pourquoi il est mythique ? C'est parce que Jodorowsky, il avait rassemblé autour de lui une espèce de dream team de folie. Genre, pour vous donner un exemple, Dali en directeur artistique, il devait même donner un rôle à Dali. La musique par je sais plus qui. Enfin, bref, c'était que ce soit à tous les niveaux, c'est vraiment. le top du top. Et bah, voilà, c'est un film maudit qui ne s'est jamais fait, mais que tous les amateurs, tous les fans de Dune rêvaient voilà, de voir ce truc arriver au bout. Mais fun fact, Jodorowsky n'était pas si fan du roman. Lui, c'était plutôt un prétexte pour faire une œuvre complètement totale, mais voilà, c'est...
D'accord.
C'est peut-être pas plus mal que finalement, on n'ait pas eu cette version pour avoir une version de quelqu'un qui est vraiment, vraiment fan.
Oui, c'est ça, Denis Villeneuve, c'est le livre qui a fait qu'il a eu envie d'écrire le... Enfin, de faire le scénario et de réaliser le film.
Ouais, ouais. Mm. Et donc, justement, en parlant du roman, tout petit contexte, certes c'est un roman, mais c'est aussi le premier tome de toute une série, en fait, d'une saga de 6 romans écrits par Frank Herbert, donc entre les années 60 et 80, et aussi de point de départ de tout un univers étendu qui a été développé par son fils Brian Herbert après la mort de Frank. Et c'est aussi, mine de rien, Dune, c'est aussi le roman de science-fiction le plus vendu au monde. Donc, c'est pas rien. C'est considéré comme... la source d'inspiration d'énormément de classiques du genre, Star Wars notamment, à tel point que il me semble que Frank Herbert, à la sortie des premiers Star Wars, était genre « Ouais, là, c'est un peu abusé !» Et il a essayé de faire valoir le fait que quand même, ils auraient pu citer Dune comme inspiration, mais finalement, il s'est dit « Bon, on va laisser Star Wars dans leur coin. » Dune, c'est quand même différent, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont parallèles. Peut-être que ça donnera un épisode à part entière, les parallèles entre Star Wars et Dune.
Ça peut être une idée, parce que tu sais qu'au départ, j'avais commencé à lister, pour la conclusion, tous les parallèles, puis après, je me suis dit « Bon, en fait, il y en a trop, hein, on attendra plus tard. » Bon, du coup, comme nous, on a divisé notre épisode en deux, eh bien, pareil, le projet a divisé le roman en deux films. Tu as vu cette transition? Donc, par conséquent, le film Dune, là, que vous pouvez aller voir ou que vous avez vu, c'est une adaptation de la première partie du roman seulement.
Ouais, et ça représente à peu près les deux tiers, quand même. Hein. C'est...
D'accord. Ouais. Bon. Et alors, il est même pas impossible qu'on ait une trilogie, puisque Denis Villeneuve a évoqué qu'il était aussi fasciné par le deuxième roman qui s'appelle Le Messie de Dune. Donc, voilà. Si ça marche bien, pourquoi pas? On croise les doigts, on espère. Et puis moi, je dis que tant qu'on y est, pourquoi pas continuer avec le troisième roman, Les Enfants de Dune, puisqu'il y a déjà eu une mini-série qui existe avec Suzanne Sarandon et qui date de 2003. Pareil, ouais. Qui n'a pas fait...
Cette fameuse mini-série, cette fameuse adaptation, effectivement, des années 2000, apparemment, effectivement, elle va plus loin. Elle va jusqu'aux Enfants de Dune. Donc,
C'est ça. Ouais. Bon, par contre, là, on est en train de vous parler d'un 2, d'un 3. Vous l'aurez sûrement vu, parce que tout le monde parlait que de ça. La suite n'est pas encore confirmée. Warner a annoncé vouloir attendre les chiffres du box-office avant de confirmer un 2. Bon, voilà. Moi, déjà, en mettant... Je trouve ça un peu hypocrite de dire « Ok, on va voir comment ça marche en salle », mais le mettre sur HBO en même temps, tu vois, je suis là...
Alors après, ils se sont un peu rattrapés, Warner, mais c'est vrai que sur le coup, bon... Denis Villeneuve a ouvertement critiqué Warner, quand ils ont annoncé qu'ils allaient sortir les films en même temps sur HBO Max. Ça lui a pas plu du tout. Il l'a fait savoir. Alors après, et en plus... Avec cette épée de Damoclès, il faut qu'il y ait assez de gens qui aillent le voir en salle. C'était un peu abusé. Du coup, Warner est revenu un peu dessus et dit « Non, mais on prendra en compte le succès sur HBO Max aussi. »
D'accord. Parce que du coup, je viens de comprendre quelque chose. Parce qu'avant, j'avais lu au moins un ou deux articles qui donnaient un chiffre. Il faut qu'il ait fait tant d'euros au box-office en salle. Ils sont revenus dessus parce que je trouve plus aucun article qui donnait un chiffre. J'ai cherché pendant au moins une demi-heure, impossible de retrouver. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'ils ont changé d'avis, qu'ils ont supprimé, mais du coup, les articles, c'est étrange. Mmh. Ok, je comprends mieux. Tant mieux. Bon, de toute façon, on en avait un petit peu discuté, mais moi, je me demande si c'est pas une technique marketing, au final, de la part de Warner, de dire il y aura une suite si les chiffres sont bons, puisque au final, l'univers Dune, on le voit, il est en train d'arriver en force. On a quand même une série qui a été annoncée, dérivée sur les Bene Gesserit. Du coup, on va en parler de qui c'est exactement un peu plus tard. Donc la série, elle serait intitulée Dune The Sisterhood. Elle sortirait justement sur la future plateforme de streaming Warner Media, D'ailleurs, on sait que Denis Villeneuve a donné son accord et il serait également à la barre. Alors, je crois qu'il a le pilote pour l'instant. Je ne sais pas si c'était annoncé pour la suite, mais je crois le pilote, puisqu'il a dit que les Bene Gesserit l'ont toujours fasciné. Donc, il trouverait ça génial de concentrer une série autour de cet homme, de cet ordre de femmes, pardon. Et il y a aussi également un gros contrat de 6 ans qui devrait donner naissance à 3 jeux vidéo, que ce soit pour PC ou console, dont l'un qui est basé sur le film. Donc je me dis, là on est quand même en train de vraiment parier sur le futur, et j'ai l'impression que vu la fin du 1 où on se dit il nous faut absolument un 2, c'est un peu un coup marketing, un coup de com', pour que les gens disent « Ah oui, je veux vraiment la suite, bah tiens, je vais aller le voir 3 fois, coucou Marjo
Je vois pas de qui tu parles. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je pense que là, Warner, ils espèrent lancer une franchise avec ce premier film, clairement. Voilà, bah, Warner, c'est comme Disney. Ils fonctionnent autour de grosses franchises. Et Dune, clairement, c'est un matériau de base idéal pour lancer ça. Après, je pense qu'ils ont été prudents parce que, mine de rien... le dernier gros film donc de Denis Villeneuve, c'était Blade Runner 2049, donc une suite au Blade Runner, donc notre renaissance de grand univers de science-fiction. Et il a fait des chiffres très décevants au box-office Blade Runner, parce que, bah, mine de rien, Denis Villeneuve, il divise. C'est pas encore, je pense, un metteur en scène qui est connu du grand public comme étant grand public, justement, et comme faisant des films accessibles.
C'est un peu comme Nolan.
Voilà, c'est un peu... je pense que Warner Bros, ils espèrent qu'ils deviennent un Christopher Nolan, quoi, leur nouveau Christopher Nolan, qu'ils ont lancé, je veux dire, pour moi, je pense que ils ont en tête, on va faire une trilogie Villeneuve-Dune comme on a fait une trilogie Nolan-Batman, quoi. Mais avec, du coup, un univers quand même beaucoup plus complexe et un réalisateur qui aime bien faire des choses quand même assez... c'est pas élitiste, c'est pas comme... Enfin, c'est différent, mais voilà, c'est pas dans le goût... c'est pas du film de super-héros, quoi, clairement. Donc, c'est pas du blockbuster classique de ce qu'on a, même chez Warner, au niveau de DC, ou encore moins de ce qu'on a du côté Disney... Voilà, donc c'est différent. Et d'ailleurs, Denis Villeneuve en rajoute un peu 3 couches là-dessus, quitte à énerver les gens, les fans de Marvel, mais on ne reviendra pas là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il assume ce côté-là. Mais assumer ce côté-là pour Warner, dit, ouais, on veut quand même que ça plaise à un maximum de gens et que ça fasse beaucoup d'entrées. Donc, joue pas trop au snob, quoi.
ouais, c'est vrai.
Pense que dans les faits, le 2, il est déjà quasi assuré. Les recettes à l'international, avant même que ça sorte aux États-Unis et en Chine, sont excellentes. Je ne sais plus combien, mais ils ont déjà dépassé un cap, je ne sais plus quel cap là, des recettes, mais qui est très très haut, enfin très bon. Et donc, il n'y a pas de souci. Le film est déjà rentable et je pense que leur campagne ils ont bien préparé les choses, donc je pense qu'aux États-Unis ça va cartonner. Et après, effectivement, voir si les gens vont aller le voir en salle ou sur HBO, mais bon, ils ont tout fait pour que les gens aillent le voir, non seulement aillent le voir en salle, mais aillent le voir en IMAX. Donc je me fais pas trop de soucis, on va avoir un 2.
Non, moi non plus. Je pense, je suis persuadée qu'on aurait un 2 aussi. Parlons un petit peu de l'histoire, en bref, de quoi ça parle, un résumé de tout cet univers, de tout ce film numéro 1.
Donc l'histoire en bref, pour se plonger dedans en sachant un peu où on met les pieds, je pense qu'on peut imaginer un petit peu que c'est un mélange entre Star Wars et Game of Thrones, c'est pour vous donner un peu des repères. On est en fait dans un futur très très lointain où l'humanité a conquis la galaxie, l'humanité se disperse dans plein de milliers de planètes différentes, a renoncé aux intelligences artificielles, donc on a beau être dans un futur très très lointain, c'est pas si technologique que ça, il n'y a pas de robots par exemple, et on s'organise en fait... en un empire avec du coup différentes grandes maisons rivales, c'est ça la référence à Game of Thrones. Et donc l'histoire commence en fait avec la nomination de l'illustre maison Atreides à la gouvernance de la planète Arrakis, qui est aussi appelée Dune, d'où le nom de Dune.
Merci Marjo.
Et il se trouve que cette planète était en fait depuis plusieurs générations gérée par les ennemis héréditaires des Atreides, les Harkonnens. Et Arrakis a beau être une planète totalement désertique, c'est aussi la planète la plus importante des galaxies puisque c'est la seule sur laquelle on trouve l'épice, qui est aussi appelée le mélange. Et alors qu'est-ce que c'est? Vous pouvez vous imaginer que c'est un peu l'équivalent à la fois du pétrole et du LSD réunis. C'est vraiment la matière première, c'est la richesse la plus importante qui fait que qui contrôle l'épice a un pouvoir économique et politique essentiel dans la galaxie, quoi, en gros. Mais c'est aussi une drogue qui a des effets sur lesquels on va revenir. et c'est une de ses importances, c'est que c'est la ressource essentielle pour pouvoir naviguer à travers la galaxie. On reviendra là-dessus aussi, pourquoi l'épice fait ça. Et donc, Leto, qui est le chef de la maison Atreides, n'est pas du tout dupe de ce cadeau qu'est la gouvernance d'Arrakis, puisqu'il se doute bien que c'est un piège tendu par l'Empereur pour encourager en fait un conflit entre les Atreides et les Harkonnens, qui sont en fait deux maisons qui sont un peu trop riches et influentes au goût de l'Empereur, donc technique d'Empereur, deux potentiels rivaux, on va les faire se détruire entre eux, comme ça on est tranquille. Et au milieu de toutes ces intrigues politiques, on suit Paul, qui est donc notre personnage principal, qui est le fils du duc Leto et de Dame Jessica, et qui est un jeune garçon, un adolescent, qui se sent irrésistiblement attaché en fait à cette nouvelle planète, pour lui, Arrakis, et au peuple du désert, les Fremen. Et il a aussi d'étranges visions, il semble être incarné une espèce d'élu, le Lisan Al-Kaïb, qui sont annoncés par des prophéties, donc il y a toute cette dimension aussi un peu mystique qui s'annonce autour de ce personnage au milieu qui est pris dans toutes ces intrigues politiques. Voilà.
C'est bien résumé.
En fait, voilà, ça paraît compliqué et ça l'est, mais dans les faits, c'est relativement... Enfin, on a des repères, il y a un élu, il y a des maisons rivales, il y a des intrigues politiques, enfin voilà, c'est...
En fait, je pense que la plus grosse partie qui est compliquée, c'est les intrigues politiques, parce que ils vont pas... Le film va pas démarrer avec « Voilà, lui c'est un tel, eux ils sont contre, lui il va aider, il va faire une alliance avec machin. » C'est... Tout est un peu plus subtil et pas forcément détaillé, expliqué, et du coup... Faut vite se mettre dedans, et donc ça on en parlera un petit peu plus loin, mais on va essayer justement l'idée de redigérer un peu toutes ces relations.
Par contre, il nous aide quand même visuellement, on comprend très vite que les Atreides c'est les gentils et les Harkonnens c'est les méchants.
Oui, c'est évident. Bon, ça c'est oui. Oui, ça c'est sûr. Ça reste un peu manichéen hein, comme ça, mais voilà, oui. J'ai failli dire un truc en spoilant, je m'arrêterai là.
Pour continuer sans spoiler, qu'est-ce que t'en as pensé alors pour développer un petit peu ce qu'on disait au début et pourquoi il faut aller voir Dune au cinéma une fois, voire trois fois.
Ouais. Bon, moi déjà, quand je suis allée voir Dune, je connaissais vraiment pas du tout l'univers, je connaissais pas l'histoire et jusqu'à sa sortie, je ne savais même pas que c'était un roman de science-fiction. Voilà. Donc j'étais vraiment... Je crois qu'on avait fait un épisode, on parlera de la musique plus tard, donc on va pas débattre maintenant, mais on avait parlé de Dune à une époque dans un autre épisode, dans l'épisode de Tenet, puisqu'on parlait de Hans Zimmer, et je me rappelle qu'à ce moment-là, ça avait l'air d'être un gros film, et je me suis dit, ok, je connais pas du tout, bon d'accord, on verra à ce moment-là, au moment de la sortie. Et puis ma maman m'a appelé quand il est sorti, « Charline, il y a un nouveau Dune, c'est génial, j'ai lu le livre, j'ai vu le film, j'ai vu la série, faut absolument qu'on aille le voir ensemble, c'est vraiment le film exceptionnel, toi qui es fan de Star Wars, comment ça se fait que tu connais pas ?» Ok.
Donc vraiment, c'est ta faute allée. Maman, tu m'en as jamais parlé.
Oh bon, Nadia, elle a dû essayer et puis j'ai dû faire non, ça m'intéresse pas. Non, donc au final, j'y suis allée quand même avec pas mal d'appréhension parce que même si je suis une fan de Star Wars, voilà, c'est pas mon univers normalement la science-fiction et c'est pas ma came. Donc du coup, j'avais un peu peur de pas aimer, j'avoue. Et pourtant, la magie, elle a opéré tout de suite. Je suis restée scotchée sur ma chaise du début à la fin. Alors oui, j'ai vraiment pas eu j'ai eu cette impression de pas tout comprendre, mais au final, contrairement à un film de Nolan où des fois tu peux être là en mode je comprends rien et ça me pose problème. Là, ça me posait pas de problème parce qu'il y avait toute une partie quand même assez contemplative et puis mais tout avec de enfin avec de l'action quand même, des personnages, des relations les uns avec les autres. Enfin, il y avait quand même des choses sur lesquelles on pouvait se raccrocher même si on avait la sensation de pas tout piger. Et du coup, ça m'a pas du tout dérangé et j'ai vraiment adoré. Après, j'ai ressenti quand même quelques longueurs vers le milieu ou surtout vers la fin. Ouais. Donc bon, c'est dû à une raison, je détaillerai plus tard dans la partie spoiler, mais voilà, quelques longueurs quand même, mais au final, ça a pas empêché que j'ai adoré le film, tu vois, je mettrais un 9 sur 10, 9,5 sur 10, facile. J'ai été vraiment immergée dans l'univers très très rapidement, et du coup j'ai hâte de voir la suite, enfin, déjà j'ai acheté le livre, donc j'ai hâte de lire le livre pour savoir comment ça se passe après, et puis ensuite j'ai hâte de voir le 2, oui, effectivement.
Ouais. Ouais, bah moi je, bon vous avez compris, je, j'ai aimé.
Sans blague.
Mais en fait, alors moi j'y suis allée quand même sans connaître l'univers ni l'histoire, bien que quand même j'en avais entendu parler depuis que je suis gamine, parce que mon père a lu les livres et est très fan. Et en fait, je sais pas, j'ai grandi avec ces éditions des livres sous mon nez, quoi. Mais n'empêche que mon père m'avait souvent parlé de Dune, mais toujours en me disant c'est compliqué, c'est dur à lire, voilà, c'est compliqué. Donc au moment où j'avais envie de me plonger dans les livres que lisait mon père, j'étais trop jeune et il m'a un peu découragée de les lire. Et après, je sais pas, j'ai eu la flemme. Puis moi, je l'associe à la science-fiction, et comme je suis plus fantasy que science-fiction, voilà, pour moi c'était dans une catégorie dans laquelle j'allais pas forcément facilement rentrer. Bref, tout ça pour dire que quand ils ont annoncé le film, je me suis dit ah bah parfait, j'adore Denis Villeneuve, ça va être l'occasion pour moi de rentrer dedans. Et je me suis dit, une fois que je vais rentrer dans le film, il y a de fortes chances qu'après je me plonge dans l'univers, et spoiler, c'est le cas, parce que pour moi ça a été vraiment une immersion immédiate. J'ai pas eu trop de problèmes à saisir les enjeux, justement parce que, comme je disais, j'ai retrouvé des repères sur d'autres univers que j'aime bien. J'ai cité Star Wars et Game of Thrones, mais ça m'a vraiment permis d'avoir des raccourcis dans ma tête, en fait, dans mon cerveau, pour comprendre ce qui se passe. Et du coup, je trouve, maintenant que j'ai mis le nez dans le roman, que c'est du coup plus accessible pour un néophyte de se plonger d'abord dans le film que d'attaquer par le livre, qui est effectivement pas aride, mais ça balance beaucoup d'infos tout de suite, encore plus que le film, donc c'est assez dur de rentrer dedans, je pense. Beaucoup moins dur quand on a le film en tête. Donc ouais, moi j'ai été tout de suite fascinée, et j'ai tout de suite eu envie de plonger dans cet univers, de comprendre ce que je comprenais pas. voilà, donc ça a réveillé, enfin moi de toute façon c'est mes sentiments favoris, c'est pour ça que je suis autant à fond, c'est que j'adore découvrir un monde imaginaire neuf pour moi et me plonger complètement dedans. Ça a été, et c'est le cas depuis que je suis gamine, depuis Harry Potter, depuis Le Seigneur des Anneaux, j'ai eu cette, et la dernière fois que j'ai ressenti autant d'excitation, c'est en découvrant Game of Thrones, en fait. Donc je retrouve vraiment cet enthousiasme qui m'ouvre en fait tout un nouveau monde, en fait, et c'est pour ça que je suis autant excitée, quoi. Après, pour reparler du film en lui-même, je trouve que visuellement c'est juste une claque mais monumentale. Le casting, on l'a évoqué, j'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur pour Rebecca Ferguson, que j'avais déjà beaucoup aimée dans Mission Impossible, et justement je trouvais qu'elle donnait un côté chaleureux en fait au film, qui peut paraître un peu froid par moment quand même dans les personnages, dans la relation mère-fils qui est très très belle, je trouve, entre Jessica et Paul. La barbe d'Oscar Isaac, c'est un grand point fort du film.
C'est vrai, c'est vrai.
Et Jason Momoa, que franchement, je suis immédiatement tombée amoureuse de son personnage, Duncan Idaho, je trouve.
Et très touchant.
Voilà, très attachant tout de suite. Il donne pareil beaucoup d'humanité sur des personnages qui sont parfois pas très, enfin, un peu distants, quoi. Et le seul reproche, bah, c'est ce que tu disais, il faut une suite. Et c'est, je trouve, un petit peu problématique que le film n'ait pas une vraie fin. C'est une très très belle entrée en matière, mais il ne tient pas tout seul, quoi. C'est juste une partie 1.
C'est ça.
Et c'est un problème, parce que dans, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, le premier, ça a beau annoncer une suite, il tient tout seul, il a une vraie fin satisfaisante. Et là, c'est pas pour moi une fin satisfaisante. Donc ça m'a pas gênée du tout pour parce que j'étais déjà conquise et prête à me plonger dedans. Mais c'est quand même, je trouve, un défaut du film de pas avoir une construction qui fait qui se tient tout seul.
Bah ça fait un peu comme Pirates des Caraïbes 2.
Ah ouais, oui, on peut, oui, c'est vrai.
Sans vraiment le gros cliffhanger comme ça à la fin. Mais voilà, où tu peux pas le regarder, enfin, t'as pas une histoire de A à Z, il te manque du coup une partie.
Mais c'est littéralement, et puis c'est, on voit dès qu'il y a le titre qui apparaît, c'est d'une partie 1. C'est oui. Comme Les Reliques de la Mort, partie 1. Il n'existe pas sans les parties 2, quoi.
C'est... Mais en fait, là, ce qui est dérangeant, c'est que la partie 2 n'est pas avancée. Parce que Denis Villeneuve l'avait dit, hein, lui, il voulait tourner les deux en même temps. Warner a mis le holà. Non. Mais là, il a dit, dès qu'il a le feu vert, il commence à tourner tout de suite. Donc en fait, ouais, c'est ça aussi qui est frustrant. Ouais. C'est qu'on sait qu'il est dans les tuyaux, il peut être commencé et on a dans un an, deux ans la suite. Maintenant, s'il n'y a pas de suite, ça va être une grosse déception. Donc voilà, vous l'avez compris, il faut aller voir Dune pour avoir une suite.
Ouais. Et aussi parce qu'en tant que tel, je veux dire, c'est
oui,
beau quoi.
Le film est beau. Non, en vrai, ouais. C'est vraiment un spectacle pour moi qui est à voir sur grand écran.
Le plus grand possible.
Le plus grand possible.
Comme non, dit Denis Villeneuve.
Ah ben, moi, j'ai été le voir, du coup, dans mon cinéma, au premier rang, sur les petits canapés, là. Donc, j'étais allongée avec l'écran juste devant ma tête. Vraiment, j'étais sur place, quoi. J'étais...
Ouais. Moi, j'ai eu la chance de le voir en Dolby Cinéma. Et, alors, parce que première séance, j'ai adoré. Mais j'ai été très, très, très énervée parce que j'étais dans une... Très belle salle, très grande salle, grand écran, blabla, confortable. Mais il y avait un problème de projecteur qui faisait que l'image n'était pas parfaite. Il y avait un problème de pixels dans le projecteur qui faisait qu'on avait des tout petits points verts lumineux qui apparaissaient sur certains endroits comme des pixels qui ne marchent plus dans un écran, vous voyez. Dès que l'image devenait sombre et... Voilà, pour ceux qui ont vu le film, vous savez qu'il y a quand même pas mal de scènes qui sont assez sombres. Mmh. Et du coup, j'avais ces petits points verts très brillants au milieu de l'image. Je me dis, mais non, mais là, c'est abusé. Donc, je balance, c'est le Gaumont de Damary. Honte à vous, c'est un scandale de nous avoir... En plus, c'était une des séances d'avant-première. Donc, c'est un scandale de nous avoir projeté le film dans des conditions dégradées. Mais je me suis rattrapée après en allant le voir. Deux fois en Dolby Cinéma et là j'ai juste kiffé. Donc si vous avez une salle Dolby Cinéma ou une salle IMAX près de chez vous, voilà, allongez les quelques euros de plus, ça vaut le coup pour ce film quoi.
C'est lequel où il y a les fauteuils qui bougent?
Ah, c'est la 4DX, c'est autre chose. Donc j'ai pas fait la 4DX, j'hésitais à le faire la 4DX. Je le conseille pas pour le découvrir de le voir en 4DX.
C'est ce que j'allais dire.
Mais par contre voilà, Dolby Cinéma c'est des sièges qui s'inclinent, qui sont hyper confortables. Donc, pour 2h30, on apprécie. Et il y a une image qui a une qualité très, très bonne, un contraste avec des sombres très, très beaux et des couleurs très, très belles. Et donc, c'est magnifique. Et le son, est pour la BO dans Zimmer, ça envoie du pâté. Et le IMAX, l'image est... Comme ça a été tourné en IMAX, l'image est plus grande, en fait. Ça donne un effet encore plus immersif. Mais je ne l'ai pas vu en IMAX. Mais il paraît que ça vaut le coup aussi.
Je vais juste revenir sur la musique. Tu sais que j'ai lu une critique d'une copine qui disait que la musique l'avait dérangée parce qu'elle était trop présente et qu'elle prenait le pas sur des fois les paroles et le moment.
Bah, j'ai entendu qu'il y en a d'autres qui ont trouvé que c'était trop fort dans la salle où ils étaient. Au point que ça, voilà, que pour les personnes qui sont un peu sensibles justement au bruit très tonitruant, ça peut être gênant pour ces personnes-là. Donc ouais, si vous savez que vous êtes sensible au bruit très fort et au grand... Enfin, de toute façon, vous connaissez Hans Zimmer. Hein. C'est...
oui.
Mais là, c'est puissance, c'est encore plus hein, que... Même que Tenet, pourtant, c'était pas Hans Zimmer, mais on avait, pareil, une BO très, très tonitruante. Là, c'est vraiment très fort, effectivement. Et pour peu que... Moi, j'étais dans la dernière... Pourtant, j'étais en Dolby, donc... Peut-être qu'ils ont un peu mieux réglé le son en Dolby, donc ça faisait vibrer les sièges, mais c'était pas, ça faisait pas mal aux oreilles, quoi. Alors que dans la première séance que j'ai faite, effectivement, je dis genre, oh là, c'est un peu trop.
Bah moi, ça me l'a pas fait, mais c'est vrai que j'ai lu cette critique revenir plusieurs fois, donc voilà, fallait en parler quand même. Non, mais juste, et je conclurai là-dessus avant qu'on passe à la partie d'après. Je trouve ça quand même top d'avoir un film à gros budget qui reste quand même hyper différent des blockbusters habituels parce qu'on a quand même, on parle de musique forte, mais on n'a pas ces explosions toutes les 5 minutes, ces scènes de bataille qui durent vraiment 1000 ans, etc. Ça reste quand même différent d'un blockbuster habituel et ça, je trouve ça génial et on a besoin de films comme ça quand même.
Bah oui, Villeneuve a beau avoir fait grincer des dents en s'attaquant au MCU. Dans les faits, Dune, effectivement, n'est pas du tout. Il y a beau avoir une grande variété dans les films du MCU, ça reste un moule, quoi qu'on dise. Et là, et le problème, entre guillemets, c'est qu'on est abreuvé de blockbusters qui sont dans ce moule. Et là, on est vraiment dans quelque chose de différent, comme ce qu'on peut avoir avec Christopher Nolan. Je pense que les deux sont vraiment comparables à ce niveau-là. Et effectivement, Dune n'est pas. Et n'est pas dans ce moule-là, et ça fait du bien, quoi.
Ouais, tout à fait d'accord. On va passer à une partie. Ça me fait rire parce que c'est en fait, je l'ai appelé les questions que tout le monde se pose. Et en fait, c'était plus les questions que Charline se pose. Mais je me suis dit que je vais pas être la seule.
Oui. Bah moi aussi, je me le suis posé. Hein. C'est juste
Ah.
que du coup, j'ai attendu un peu le temps que Charline voit le film et qu'on se mette d'accord sur les questions qu'on se posait. Bah j'avais pris un peu d'avance, mais ouais. On va essayer de. Alors, c'est là où il y a peut-être des légers spoilers si vous voulez vraiment découvrir le monde en regardant le film. C'est là qu'il faut que vous vous arrêtiez pour cet épisode. Mais c'est aussi, je pense, c'est pas des informations sur l'intrigue, mais plutôt sur l'univers pour que vous puissiez comprendre des choses qui ne sont pas forcément faciles à saisir du premier coup en voyant le film, ou même qui ne sont pas dites, tout court. Donc voilà, on va essayer d'éclaircir quelques notions.
Exactement. Et on va commencer par la première. Alors, Marjo nous en a un petit peu parlé déjà. Qu'est-ce que l'épice? Voilà. Parce qu'on a bien compris que le film tournait beaucoup autour de ça, que c'était très important. T'as hyper bien décrit en disant que c'était un mélange entre du pétrole et du LSD. C'est très bien trouvé.
Ça vient pas de moi, je l'ai entendu dans d'autres
D'accord.
personnes qui parlent, qui essaient d'expliquer ce que c'était.
Ouais, mais c'est parfait. Sauf que je m'amuserais pas à sniffer du pétrole, mais l'idée est là. Donc en fait, l'espice, c'est une substance uniquement présente du coup sur la planète Arrakis, donc la planète Dune, et c'est la matière qui a le plus de valeur dans tout l'univers de Dune. Alors elle peut être consommée par les humains, comme le font les Fremen, et en fait ce qui revient à prendre une drogue qui prolonge la vie, qui rend plus résistant aux maladies. Alors elle permet également d'éveiller la conscience et même la prescience.
Ouais, en gros, de voir l'avenir, plus ou moins.
C'est ça. Et du coup, c'est surtout les navigateurs spatiaux qui l'utilisent pour améliorer leur faculté à voir l'avenir, sans laquelle toute navigation interstellaire longue distance serait impossible.
Ouais, c'est pour ça que c'est l'équivalent du pétrole, même si c'est pas ce qui permet de faire marcher les vaisseaux, mais comme on l'a dit, il n'y a aucune intelligence artificielle dans ce monde-là. Pour remplacer les intelligences artificielles, ils droguent les pilotes pour
C'est
qu'ils
ça.
puissent anticiper les trajectoires, en fait, en
Alors,
gros.
et en le problème, c'est que c'est pas bien expliqué au début du film parce que moi,
Ah, c'est pas expliqué, c'est
c'est
pas
pas expliqué. En
expliqué,
fait, ils
non.
disent juste qu'ils en ont besoin pour faire justement fonctionner les vols spatiaux. Et moi, j'étais là. Mais alors, je comprends pas. Ils mettent juste cette espèce de
Oui,
pisse
moi aussi,
sable dans
j'avais
le
pas compris,
carburant
hein.
ou ça se passe comment? Et j'étais là. Je ne comprends pas.
Mais c'est très
Et.
mystérieux, hein. On reviendra sur la guilde justement, mais qui
Ouais,
s'occupe de
non,
ces
c'est.
voyages, mais c'est très mystérieux, c'est volontairement très mystérieux.
Oui, bah même la composition, hein, puisqu'on ne connaît pas du tout sa composition. Par
Ça sent
contre,
la
dans
cannelle.
voilà, bah c'est ça, ils disent que ça sente la cannelle et que ça a une couleur qui est changeante selon l'environnement. Par contre, je trouve qu'elle est hyper bien représentée dans le film, parce que c'est vrai que
Tellement beau.
tu l'as, t'es là, tu vois quelque chose. Non, je vois pas. Si, je vois quelque chose. Non, je vois pas. Si, 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 c'est bon, je le vois, là, c'est super beau et c'est bien fait, c'est top.
Ouais, c'est représenté un peu comme cette espèce de. Alors, on la voit bien dans le désert. Enfin, le premier coup, j'ai pas vu. Et puis, le deuxième coup, en plus en Dolby, on voit mieux. On voit vraiment, quand ils disent oui, on voit où est l'épice, c'est l'endroit où c'est un peu plus sombre sur la surface du sable. Et du coup, quand tu es au courant et que tu revois une deuxième fois le film et que tu regardes les plans de large du désert, tu vois où sont les poches d'épices, en fait. Et du coup, en gros plan, ça fait cette espèce de petite. de petits grains scintillants. C'est tellement beau.
Non, c'est vraiment bien fait. Mais les images sont sublimes. Hein. Je pense qu'on va le répéter pendant tout l'épisode, mais les images sont sublimes.
Puis j'ai entendu des gens un peu plus spécialistes de l'image au cinéma et qui disent que c'est tellement dur de filmer le sable et que là, ils ont réussi de manière assez impressionnante à filmer le sable et du coup les pistes, parce que mine de rien, les pistes, c'est un peu comme du sable. Hein.
Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, quand tu me faisais la comparaison avec le pétrole, moi, j'avais pas compris que tu faisais la comparaison avec le pétrole parce que ça sert à la navigation. Je pensais que c'était parce que c'est présent dans le sol d'une planète et que tout le monde essaye de se battre pour l'extraire et avoir le pouvoir, comme le pétrole.
Ah oui, ouais, je faisais plutôt cette référence vis-à-vis de ça. Au début, moi, quand j'ai entendu la comparaison avec le pétrole, je l'avais compris dans le sens, effectivement, de ça sert au voyage, à se déplacer, et dans les faits, oui.
Oui, aussi,
mais
oui.
C'est surtout pour son pouvoir, enfin pour son importance économico-politique, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et autre chose qui est pas précisée dans le film, mais que je pense qu'on peut s'en douter, c'est que la consommation d'épices entraîne une très forte dépendance. Et en fait, c'est important parce que, mine de rien, sur Arrakis, l'épice est littéralement dans l'air. Quand on est dans le désert, on respire de l'épice. Et du coup, même si on n'en consomme pas volontairement, et puis tout ce qu'on mange, il y a de l'épice dedans, quoi. Et du coup, ce qui fait que quand on vit un certain temps dans le désert sur Arrakis, on ne peut plus quitter cette planète, en fait. Puisque quand on est en manque d'épices, on meurt. Donc, t'es obligé de tout le temps en consommer. Et c'est tellement, tellement cher que quand tu quittes Arrakis, tu ne peux pas forcément t'en procurer facilement, sauf si t'es l'empereur ou une grande famille. Voilà, je ne sais pas, c'est quelque chose en fait qui m'a marqué quand j'ai lu le livre. Il y a ces expressions de « une fois que t'es sur Arrakis, tu ne peux plus quitter cette planète sans laisser quelque chose de... » Enfin, sans être complètement attaché en fait à cette terre. Donc, et c'est via l'épice en fait. Et je trouve que ça rend une dimension un peu plus... à la fois spirituelle et très pratique de l'addiction en fait à l'épice. Et bon, je pense que certains de nos personnages sont déjà accros à l'épice, je pense.
Oui, 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 je suis d'accord. On va raconter une petite histoire. J'aime bien Père Castor raconter une histoire. On va raconter une petite histoire qui permet d'expliquer pourquoi c'est un film de science-fiction qui est différent de ce dont on a l'habitude. Et je te laisse expliquer ça mieux que moi.
Ouais, alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout expliqué dans le film. Et quand je l'ai découvert en creusant un peu plus l'univers, je me suis dit, c'est quand même quelque chose d'important pour comprendre les mécaniques en fait de cet univers. Donc la petite histoire, c'est l'histoire du djihad butlérien. Alors oui, parlant du mot djihad, c'est un mot qui est énormément utilisé dans le livre. On parle sans arrêt de djihad, que ce soit pour cet événement du passé, le djihad butlérien, que pour autre chose, dont on va pas parler là. Et c'est pas du tout un mot qui est utilisé dans le film. Et ça a été... Enfin, tous les fans de Dune se sont dit « Ah, ils n'utilisent pas le mot djihad ». Bon, on comprend pourquoi ils l'utilisent pas, parce que dans les années 60, quand il a écrit le livre, je pense... Enfin, on n'a pas la même... Il n'y a pas la même connotation. Djihad, c'est juste « guerre sainte », entre guillemets. Et s'il avait appelé croisade, c'était pareil, sauf qu'il y a énormément de références au monde islamique dans Dune, dans les termes, etc. Et du coup, on parle de guerre sainte dans le film, mais on ne parle pas de djihad. Mais bon, bref, c'est une aparté. Djihad butlérien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, on est donc dans un futur très, 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 très lointain de l'humanité. Et donc dans notre futur, le futur de notre humanité, il s'est passé, donc dans le passé de Dune, un événement très important qui est le djihad butlérien. En résumé, c'est une révolution contre les intelligences artificielles et toutes les machines pensantes d'ailleurs, où il y a eu carrément une espèce de génocide de machines en fait, où ils ont détruit absolument tout ce qui ressemblait à un robot et tout ce qui ressemblait à une machine qui pense, y compris la moindre calculette en fait, plus de calculette. Et ils ont instauré une espèce de règle religieuse absolue qui interdit de construire toute machine qui imiterait le raisonnement humain. Et en fait, ça explique pourquoi dans ce monde, il n'y a pas du tout de robots. Et du coup, on est dans un futur où il n'y a pas toute cette dimension d'intelligence artificielle. Et ça a poussé aussi l'humanité à totalement se réorganiser et à développer d'autres types de technologies. Et surtout, à pousser au maximum les capacités humaines, en fait. Et ce qui est aussi important de se rendre compte, et je ne m'étais pas rendu compte la première fois que j'ai vu le film, c'est qu'il n'y a pas d'aliens dans ce monde. C'est absolument que des humains les personnages qu'on rencontre. Alors que il y a certains personnages qui ont vraiment l'air extraterrestres. Et en fait, c'est juste des humains qui sont un peu dégénérés parce qu'ils ont tous développé certaines spécialités qui fait qu'on a l'impression que c'est différentes races, mais non, c'est tous des humains, en fait. Et on comprend du coup d'autant plus dans ce contexte l'importance de l'épice comme ressource, comme on a dit, hein, pour remplacer les navigateurs, les ordinateurs de vol, en gros. Il faut droguer les pilotes. Voilà. C'est ça.
Merci. Donc,
je sais pas si du coup ça te change, toi, ta façon de voir ce monde-là, mais moi je sais que ça m'a été un peu genre ah ouais, d'accord. Mais...
Moins que toi.
Bon, c'est juste le fait que je suis une geek de ce genre de choses. En tant qu'anthropologue, je suis genre, ah, mais ça explique toute cette évolution culturelle.
Je pense que c'est peut-être ça. Moi, j'étais plus, tu vois, sur la composition de l'épice, en mode, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans comme molécule. Ouais, c'est ça. Mais j'ai lu en plus des articles. Il y avait un article scientifique hyper intéressant qui, justement, essayait d'analyser quelles sont les molécules, quelles pourraient être les molécules présentes dans le... Bref, voilà. Donc, chacun son... Mais c'est ça qui fait qu'on est très complémentaires, tu vois.
Oui, tout à fait. Alors, autre chose qui n'est pas, comme tu disais tout à l'heure, dans le début de l'épisode, qui n'est pas évident à comprendre, c'est la politique dans ce monde-là, parce qu'il y a des choses qui semblent assez évidentes et d'autres choses qui le sont beaucoup moins. Et en fait, tout tourne autour des enjeux de pouvoir, en fait, dans Dune, hein, vraiment. Et il faut en fait comprendre qu'il y a surtout en fait plusieurs factions, ordres, types de pouvoirs qui sont en parallèle et qui ont chacun leur influence. Donc on va essayer de les passer en revue pour que vous ayez en tête un peu toutes ces pièces de l'échiquier, quoi.
Exactement. Et on va commencer par le plus évident, même si en fait on le voit pas, l'empereur, l'Imperium. Donc ce qu'on comprend, c'est que la galaxie, elle est gouvernée depuis plusieurs milliers d'années par la grande maison Corino. Au début du film, nous, on est sous le règne de Shaddam IV, qui se méfie de l'influence grandissante du duc Leto, interprété par Oscar Isaac, qui fait partie de la maison Atreides. Donc, l'Imperium, c'est une dynastie exceptionnellement longue. Elle semble complètement indéboulonnable grâce à leurs troupes d'élite fanatiques, c'est le mot. Qu'on appelle les Sardaukars, donc entièrement voués à la maison impériale. Eux, ils sont réputés comme les guerriers les plus puissants de la galaxie et qui peuvent battre toutes les troupes de toutes les autres maisons réunies. Voilà.
Ouais. Et ça, j'avais pas compris en fait au début. Ils arrêtent pas de parler des Sardaukars, mais je comprends pas. Et c'est qui les Sardaukars? J'arrivais même pas à les identifier en fait visuellement.
Ouais, moi non plus.
Pour moi, les Harkonnen et les Sardaukars, c'était pareil quoi. Et c'est que vraiment en me repenchant là-dessus que j'ai compris à quel point c'est deux choses différentes et que et qu'il y a une scène où on les voit sur leur planète. Et du coup, faites attention si vous n'avez pas vu le film. Voilà, c'est ce moment-là où on voit vraiment les Sardaukars qui permettent après de les reconnaître.
Voit. C'est ça. Non, mais c'est vrai que voilà, pour faire clair, l'empereur, c'est comme l'empereur dans Star Wars.
Ouais.
Et les Sardaukars, c'est un petit peu les Stormtroopers.
Ouais, mais c'est version, plus fort. C'est un peu des troupes d'élite, quoi.
Ouais.
C'est comme, vous savez, là, les gardes rouges, les gardes impériales rouges, là, dans Star Wars.
Ah oui, c'est plus eux, c'est vrai.
Ouais, un peu ça.
C'est vrai.
Ou alors, comme si l'empereur avait une armée de Sith.
Que pour lui.
Voilà.
C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, voilà. Ça, déjà, c'est la première partie, l'Imperium, l'empereur et son armée.
Ouais.
Maintenant, je vous ai parlé de la maison Atreides. Marjo? Qu'est-ce que les grandes maisons?
Alors, les grandes maisons, alors là, c'est là où il faut... Quand on connaît Game of Thrones, c'est un peu l'équivalent des Stark, Lannister, etc. quoi. Puisqu'en fait, le monde de Dune, ça a beau être le futur, c'est quand même un monde féodal où, l'empereur dirige la galaxie et les grandes maisons, gouvernent les principales planètes. Donc, ils sont soumis à l'empereur, mais ils ont plus ou moins d'autonomie sur leur planète. Ces grandes maisons sont organisées entre elles dans le Landstrad, qui est mentionné en fait plusieurs fois dans le film sans vraiment qu'ils expliquent ce que c'est. Et en fait, c'est un espèce de parlement, donc potentiellement en fait un contre-pouvoir en fait, puisque toutes les grandes familles sont rassemblées dans le Landstrad et donc peuvent plus ou moins potentiellement tenir tête à l'empereur, même si en tout cas c'est pas le cas pour l'instant, mais En tout cas, c'est le Landstrat qui aide les grandes maisons à négocier potentiellement avec l'empereur et avec les autres factions dont on va parler, notamment la guilde et la chôme. Je ne crois pas qu'on va parler de la chôme parce que ce n'est pas intéressant, c'est juste des marchands. On s'en fiche. Et pour eux, c'est le pouvoir économique, mais ce n'est pas très, très intéressant. Et en bourse, ce qui nous intéresse dans le film, c'est les deux grandes maisons qu'on rencontre, c'est les Atréides, donc les héros, les gentils, avec le beau duc Leto et son beau-fils Paul, et les Harkonnen, les méchants, avec l'immonde baron Vladimir Harkonnen et son immonde neveu, je ne sais plus comment il s'appelle, mais celui qui est joué par Dave Bautista, grosse brute, voilà.
C'est bien résumé.
C'est ça. Voilà, donc voilà, chaque famille a un peu sa spécialité, les Atreides, c'est un peu les humanistes, les Harkonnen, c'est les esclavagistes.
On l'a dit tout à l'heure, très manichéen, hein, les gentils, les méchants.
C'est ça.
Bon, on va parler maintenant d'un groupe qu'on ne rencontre jamais directement et qui sont beaucoup mentionnés. Puis là, on les a déjà mentionnés, c'est la Guilde Spatiale.
Alors j'ai capté qu'on les voyait, en fait. Enfin, c'est vraiment le début du film. Où il y a toute une délégation impériale et avec des représentants de plein de choses différentes. Et la guilde, on les voit.
Ah, d'accord.
En fait, c'est eux qui ont une espèce de home avec... on ne voit pas leur tête. C'est un espèce de nuage d'épices, en fait, dans leur home, dans leur casque.
D'accord.
Et donc, voilà, ça...
Ok. C'est eux. Bah, écoutez, l'occasion de revoir le film. Allez. Donc, on les rencontre une fois, mais ils ne parlent pas.
Non.
Donc ce sont ceux qui ont le monopole du voyage galactique, donc ils sont très mystérieux, la preuve, on voit pas leur tête, et ils ont ce monopole essentiel car ils sont les seuls à avoir trouvé le moyen de faire les calculs hyper méga compliqués nécessaires pour le voyage à travers les plis spatiaux, donc du coup sans intelligence artificielle, on rappelle. Donc on sait qu'ils utilisent l'épice pour ça, d'où entre autres la valeur de cette dernière, donc je m'arrête pas d'insister dessus, et leur monopole leur permet de faire payer excessivement cher tout transport, et en fait tout le monde dépend d'eux, quoi. Donc voilà.
Ouais.
C'est important de refaire un peu le point aussi sur eux, qu'on mentionne, mais sans trop pareil expliquer ce qu'ils font, qui ils sont.
Ouais. Ouais, j'ai l'intuition qu'ils vont être plus importants dans l'intrigue par la suite, mais ils n'arrêtent pas de parler dans le film à quel point c'est cher de se déplacer.
C'est vrai.
et du coup, c'est à cause de ça, quoi. Et enfin, dernière faction qui est peut-être la plus importante, mais aussi la plus compliquée,
oui.
Mais je trouve aussi la plus fascinante.
Bah, celle qui nécessite une série du coup sur elle.
C'est clair. C'est les Bene Gesserit, qui en fait sont un ordre mystico-religieux entièrement féminin. C'est un peu les Jedi, j'ai envie de dire, de... plus ou moins, des Jedi, mais version un peu plus dark hein, de cet empire, puisqu'en fait, ils ont cette dimension un peu mystico-religieuse et ils agissent surtout dans l'ombre des politiques. Ils se placent dans toutes les cours, y compris dans l'entourage de l'empereur, voilà, pour jouer le rôle de conseillère. Ils sont ce qu'ils appellent les diseuses de vérité, puisqu'ils ont plein de pouvoirs sur lesquels je vais revenir. Alors, elles sont autant craintes que respectées, hein, parce que justement, elles ont des pouvoirs assez incroyables, puisque donc l'école Bene Gesserit forme, de manière assez brutale, faut le dire, ces filles à un contrôle absolument parfait de leur corps et donc de leurs émotions. Elles peuvent carrément contrôler les battements de leur cœur, en fait. J'ai découvert ça dans le livre, c'est genre, wow, c'est balèze. Mais là, on le voit dans le film surtout où elles... contrôlent leur peur, donc dès qu'il y a un accès de panique, elles réussissent à se calmer, en fait, instantanément, presque. Et surtout, elles entraînent leur perception de leur environnement et des humains à un niveau complètement incroyable, qui leur permet de déceler, en fait, les intentions et les pensées de leurs interlocuteurs. C'est pour ça qu'il y en a certaines qu'ils appellent les diseuses de vérité, c'est leur rôle à la cour. Elles peuvent forcément deviner si la personne en face d'elle leur ment ou pas, en fait. Donc elles ont ce pouvoir un peu Jedi, justement, de deviner si on leur ment ou pas. Et ce qui est encore plus Jedi, elles maîtrisent la voix qui est en fait leur permet de manipuler autrui et de leur faire plus ou moins faire ce qu'elles veulent en posant en fait leur voix d'une certaine manière que les ordres qu'elles donnent, c'est impossible de lutter contre, en fait. Et donc là, c'est presque Sith, hein, c'est un mélange entre les Jedi et les Sith. Et en fait, elle se présente quand même comme au service de l'humanité, en fait. Elle se donne un peu le rôle de guider l'humanité vers une meilleure version d'elle-même. Et c'est ça le côté un peu plus mystique, en fait, et religieux de cette organisation.
J'espère que vous aurez un peu plus compris qui elles sont, à quoi ça sert, et pourquoi faire une série sur elles, ça va être captivant. Et que
Mais c'est surtout qu'elles ont des pouvoirs de fou, quoi. Enfin, c'est...
Ouais.
Waouh.
Ouais, non, c'est clair. Non,
et
c'est...
encore, il y a d'autres choses que je mentionne pas parce que c'est du spoiler.
Oui,
mais
je spoil pas. Non, alors, tu vois, moi j'étais pas... Alors, pareil, je vais pas spoiler, il y a une scène dans le film qui fait que j'étais pas très convaincue au départ par elle. Et plus tu es dans le film, tu comprends, tu apprends, puis à la fin, quand tu fais des recherches, voilà, et tu essayes de voir un petit peu qui elles sont, en fait, plus c'est captivant et plus je les apprécie, entre guillemets. Je sais pas si tu vois quelle scène dont je parle.
Pas sûr.
On en parlera dans la partie spoiler. Ça va être dans mes choses que j'ai un peu moins aimées.
Et il y a un autre, c'est pas vraiment un pouvoir politique là pour le coup, mais il y a une autre question qu'on se pose, c'est qu'on n'arrête pas de parler d'Arrakis, mais il y a un peuple sur cette planète, les Fremen.
Exactement, et les Fremen, d'où le nom Freemen.
Oh.
Ouais.
J'avais jamais fait le lien.
Bah en fait je l'ai lu partout, mais je sais pas si c'est vraiment ça là, le but de... Je sais pas si ça vient vraiment de là, mais je l'ai lu dans plein d'articles.
Bah là tu vois, du coup ça me fait... Moi, ils m'ont... tout de suite fait penser aux sauvageons dans Game of Thrones et qui s'appelle le peuple libre. Donc ça...
Ah bah oui, tu vois, comme quoi. Non, je pense qu'il y a un petit lien effectivement avec ça. Donc eux, bah, ils vivent effectivement sur la planète Arrakis et ils veulent pouvoir vivre en harmonie, en symbiose avec le désert. Ils refusent que leur planète soit exploitée pour son épice par des étrangers, on peut les comprendre, mais ils sont dispersés en plein de tribus et du coup c'est compliqué pour eux de se rebeller, en fait. Donc on les reconnaît, vous les reconnaîtrez dans le film, avec leurs yeux bleus. Alors de ce que j'ai vu, c'est moins flippant que dans le premier film de David Lynch. Là on a juste l'impression qu'ils ont des magnifiques yeux bleus, si on fait pas attention qu'en fait ils sont pas du tout blancs.
Mais ouais, en fait on voit quand même la différence entre leur pupille et le blanc des yeux, quoi. Et tout est bleu, mais il y a un bleu plus clair à la place du blanc, en fait.
C'est ça. Mais donc voilà, ils ont et en fait cette couleur bleue provient du fait qu'ils consomment beaucoup d'épices. Alors après, ça leur permet de vivre plus longtemps, d'être plus forts, etc. Et puis pas de survivre, mais c'est aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, une obligation entre guillemets d'en consommer quand t'es sur place, puisque c'est dans l'air aussi. Donc voilà, ils vivent dans des conditions extrêmes, ce qui en fait un peuple très résilient et des guerriers absolument exceptionnels. Et alors, moi, ce qui m'a impressionné, et on en parlera plus, je pense, dans la deuxième partie, quand on va aborder les thématiques de Dune, mais c'est toute cette technologie qu'ils ont développée pour survivre dans le désert. Et voilà, on va pas spoiler, donc on va pas en parler là, mais en fait, on voit qu'ils ont vraiment une capacité d'adaptation impressionnante, et c'est un peuple très important, on va dire.
Ouais, et fascinant, et là on en reparlera à la partie 2, mais c'est une de mes raisons principales pour avoir envie d'avoir la suite, quoi. Le Fremen, c'est... Ouais. Alors, autre question que tout le monde se pose, je pense, après avoir vu le film.
Alors là, on va passer sur la seule petite partie avec spoiler. Donc c'est la fin du premier épisode. Donc si vraiment vous ne voulez pas du tout avoir une partie de l'intrigue, couper maintenant, et puis aller voir le film, et on se retrouve pour la fin et pour le deuxième épisode.
Ouais, alors, qui est Paul ? Enfin, c'est surtout Paul, on comprend dès les premières parties du film, qu'il a l'air d'incarner une espèce d'élu, en tout cas du point de vue de deux des factions, on va dire, qu'on a citées précédemment. Déjà du côté Bene Gesserit, qui essaye de créer justement un élu, le Kwisatz Haderach. Et puisque autre chose qu'on n'a pas mentionné précédemment, c'est que outre les manipulations religieuses et politiques, elle mène aussi une espèce de programme de reproduction, une sélection génétique un peu chelou, en passant par les femmes, en fait, Bene Gesserit, donc C'est là la grosse différence avec les Jedi, c'est que les BD Gesserit se reproduisent et pour en fait transmettre, elles placent les femmes Bene Gesserit pour qu'elles s'accouplent entre guillemets avec des personnes stratégiques dont elles veulent récupérer une espèce de mémoire génétique, généalogique, pour arriver à un être suprême, le Kwisatz Haderach, qui est un élu, qui en fait doit être le seul mâle qui puisse acquérir des dons Bene Gesserit, d'être éduqué au pouvoir Bene Gesserit, mais parce qu'il aura aussi en lui un héritage génétique de sa branche mâle, il pourra voir des choses que les Bene Gesserit ne voient pas, en fait, en gros. Et ça va faire de lui une espèce de guide ultime de l'humanité qui doit mener l'humanité vers son accomplissement, quoi, en gros. Et donc, voilà l'idée du Kwisatz Haderach. Et la grande question, c'est est-ce que Paul est le Kwisatz Haderach? Puisque, en fait, Dame Jessica est une Bene Gesserit. Elle a été placée à la cour du Cléto pour produire une fille avec le duc Leto. Donc, elle a été ordonnée par les Bene Gesserit d'avoir une fille, sauf qu'elle a désobéi à la mère révérende et elle a donné un garçon à son cher duc Leto, dont elle est tombée follement amoureuse. Et ce garçon, elle, en tant que mère et en tant que Bene Gesserit, elle a cette intuition que c'est lui, le Kwisatz Haderach, ça doit être lui l'élu. Enfin, c'est pas encore très clair pourquoi elle a désobéi. Est-ce que c'est juste par amour pour Leto ou est-ce que parce qu'elle a une espèce d'intuition que son fils peut être le Kwisatz Haderach, est-ce que c'est une arrogance, je ne sais pas. Et du coup, les Bene Gesserit ne sont pas très contents parce que ce n'était pas censé être à cette génération-là que devait arriver le Kwisatz Haderach. Donc, ils ont un peu peur qu'elle ait tout gâché et que Paul ne soit pas à la hauteur. Et donc, c'est vraiment là toute la question de est-ce que Paul va survivre. Parce que bon, pour les Bene Gesserit, c'est simple. Soit Paul est l'élu et dans ce cas-là, bah, tant mieux. Soit ce n'est pas l'élu et il va mourir. Enfin, voilà. Et il faudra tout reprendre le programme génétique, mais... Voilà, c'est ça en gros l'unité du Kwisatz Haderach.
C'est bien résumé.
Mais du coup, il est l'élu aux yeux de d'autres personnes aussi.
Oui, parce que du côté Fremen, on comprend que c'est aussi un élu. Mais eux, ils l'appellent le Lisan al-Gaib. Et on comprend, alors on comprend, j'utilise vraiment de gros guillemets, hein, que c'est aussi un élu pour eux, que c'est une prophétie qui a été implantée par les Bene Gesserit d'avant, qui sont venus du coup leur dire voilà, ils ont un peu préparé le terrain, il va y avoir l'arrivée du coup du Lisan al-Gaib. Et en fait, cet élu, ce messie entre guillemets, il est censé amener l'humanité dans un monde meilleur, et le peuple, quand il voit Paul arriver, ben voilà, il croit en lui, il croit en l'espoir qu'il représente. Alors, est-ce que c'est bien le Lisan el-Gaïb? Est-ce que c'est bien le Kwisatz Haderach? On sait pas. Ouais. Mais en tout cas, on comprend que... je pense que oui, mais on comprend qu'il a un rôle important, en tout cas.
Ouais, moi, je pense que oui. Par contre, je suis pas sûre que... Enfin, je pense qu'il incarne déjà ça. Par contre, est-ce que ça va amener vraiment au meilleur de l'humanité? Je ne suis pas sûre.
Non, je ne suis pas sûre non plus.
Parce que quand même, Paul, on a un peu l'impression qu'il va tourner du côté obscur. Mais bon, bref. Déjà, il s'habille tout le temps en noir. C'est quand même un signe.
Bon, on va voir. Ouais, on verra bien. Oui.
Moi, je trouve qu'il est hyper intéressant pour ce côté Lisan al-Gaib. C'est qu'en fait... les Bene Gesserit, on voit un petit peu dans le film, on comprend mieux dans le livre... En fait, le peuple a depuis des générations et des générations cette prophétie avec plein de signes. Et en gros, on leur a annoncé plein de signes qui vont leur permettre de reconnaître l'élu. Et en fait, Paul répond à tous ces signes. Le fait qu'il arrive avec sa mère est une Bene Gesserit, déjà d'avoir une Bene Gesserit avec un fils, c'est pas courant, vous avez compris. Et puis plein d'autres choses, plein de petits signes, de choses qu'il dit, de choses qu'il fait. Et à chaque fois qu'il dit des choses ou qu'il fait des choses en face de Fremen, les autres ils sont genre oh, « mais c'est lui ? Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Waouh !» Ils sont vraiment... C'est très... Une fois qu'on le sait, on reconnaît ces petites scènes dans le film et c'est assez intéressant.
C'est vrai. Donc ça va être le moment d'arrêter là notre épisode 1 sur du coup Dune. Espère que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair si c'était pas clair pour vous. on a essayé de synthétiser un petit peu et de reprendre les notions les plus importantes, enfin, en tout cas celles qui nous semblaient les plus importantes. Et puis maintenant, vous allez pouvoir du coup passer sur notre partie 2, où vous aurez nos avis, nos analyses, comme on a l'habitude de faire. C'est l'équivalent de la partie 100% spoiler.
À tout de suite.